18h03, on est de retour dans le studio du Québec maintenant. On va finir l'entrevue, on va finir l'émission, Catherine Beauchamp et moi, en accueillant l'auteur et documentariste Léa Clermont-Dion. Salut Léa.
Bonjour.
Donc, tu viens de publier un petit roman, Crève avec moi. C'est une sorte d'ovni autobiographique, je dirais. Et bien sûr, on va parler d'autres choses, mais parlons de Crève
mais
avec moi une seconde.
C'est surtout une fiction, hein, je tiens
ouais,
à
préciser. Mais
c'est des petites histoires, c'est ça?
Non. Non, c'est pas ça.
C'est en deux actes.
En trois actes, c'est... Mais bon...
Mais écoute, c'est un peu autobiographique.
Ben, en fait, le concept
je veux dire,
de la série...
À 22 ans, étudiante à Paris,
attends.
Je te connais dans le civil, il me semble que c'est toi.
Patrick, laisse-moi lire les premières lignes.
OK, vas-y.
Moi, c'est Léa, j'aime le téléroman Virginie, j'ai un kick sur Alexandre Bernard, j'ai déjà fumé du pot, j'ai peur des aiguilles, j'aime rire des humoristes pas drôles, je suis bonne en français, je ne suis pas bonne en maths, j'ai une calligraphie de médecin, laide, j'ai les doigts boudinés. Je pense pas que t'aies les doigts boudinés quand même.
Ah, ça c'est... Non, mais pour vrai, la collection 3, c'est une collection qui est assez intéressante parce que c'est trois souvenirs réels et à travers ça, on écrit une fiction. Donc, Marc Séguin avait participé notamment à la collection. Je pense que tu l'avais lu.
Oui.
Donc, il y a cet exercice-là un peu qu'on joue entre le réel et le faux. Et c'est l'histoire, en fait, entre deux jeunes femmes qui ont un pacte d'amitié qu'elles mènent finalement très tôt à l'adolescence. Et le pacte d'amitié prend une autre tournure. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est ça l'histoire. Donc, ça se passe en trois temps et il y a résolution de la quête plus tard dans le livre.
Mais avant qu'on parle du contenu du livre, et on va parler d'autres choses aussi, là, est-ce qu'on dit auteur ou autrice? Parce que je sais que c'est une controverse dans le milieu littéraire.
Bon, une autre controverse à laquelle je n'avais pas nécessairement réfléchi, honnêtement. Auteur me convient, autrice...
Hey, on avait mis notre 10$ que tu préférais autrice.
Mais je n'ai pas une opinion sur tout le temps.
J'annonce qu'à l'endos du livre, c'est écrit autrice.
Oui, ben ah oui, hein?
Ouais, parle à ton éditrice.
Bon, mais honnêtement, j'ai pas vraiment d'opinion là, arrêtée là-dessus ce soir, mais je pourrais vous revenir une autre fois.
Là-dedans, tu te décris comme Léa, une enfant du capitalisme sauvage. C'est quoi une enfant du capitalisme sauvage?
Oh my God, c'est...
Dans un pays où le capitalisme n'est pas si sauvage.
En fait, c'est de l'autodérision. Okay. C'est de l'humour caustique. Et je tiens à préciser que ce n'est pas tout à fait moi, le personnage, mais c'est un enfant, je dirais, qui est un peu en rébellion par rapport au monde dans lequel il vit. Donc, c'est un peu de l'ironie de dire capitaliste sauvage à tout escient parce que c'est pas ça, mais l'adolescente est tellement rebelle, tellement en maudit après tout, comme tu as pu le remarquer dans le ton, qu'elle ironise là-dessus, entre autres choses.
Puis comment tu fais pour mettre la ligne entre ce qui est vrai et ce qui est de la pure fiction?
Ben en fait, la ligne, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le lecteur va essayer de déduire ce qui est vrai et de ce qui est faux. Parce que la collection s'inspire aussi de la démarche de Delphine de Vigan qui a écrit d'après une histoire vraie. Et c'était exactement le même principe. Donc, elle jouait sur le vrai et le faux. C'était Delphine qui parlait au nom de Delphine comme autrice, auteur. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire au lecteur, bon, ben découvrez ce qui est vrai du faux parce que ça va loin. L'histoire va quand même dans certains détails intimes. Donc, je pense qu'on se demande si c'est vrai ou faux. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, souvent, les journalistes m'ont posé des questions. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que c'est vrai que tu avais une amie qui s'appelait Poupie, qui, à un moment donné, a disparu de ta vie? Puis ça, je réponds pas à cette question-là parce que je veux que le lecteur ait le plaisir de savoir ce qui est vrai.
Mais moi, c'est dans l'écriture. Je veux savoir l'auteur, l'auteur, quand elle écrit, toi, là, quand tu sens que tu as besoin d'aller dans la fiction, est-ce que c'est parce que tu fantasmes une situation où tu aurais envie de le faire? C'est-tu par désir?
Ben, c'est une bonne question. En fait, je trouve que la fiction permet de se dévoiler d'une certaine façon parce qu'on écrit sur ce qu'on connaît, mais on n'ose pas toujours aller là. Et là, avec ce livre-là, je me suis permise d'aller dans des lignes où j'irais jamais, dans une véritable autodérision, une espèce de regard cru sur le monde et de donner une voix. Tu sais, je me dédouane un peu en disant que c'est de la fiction, mais c'est sûr que c'est ma voix aussi, tu sais. Mais je pense que je suis allée très loin dans ce livre-là, puis c'est vraiment authentique, vrai à 100% quelque part, parce que c'est inspiré de ma voix, sauf que la trame narrative, elle est vraiment tricotée autour d'une fiction qui est finalement peut-être fausse, peut-être vraie.
Ben, c'est la beauté du roman, mais écoute, t'as pas fait que des romans. Léa Clermont-Dion, t'as aussi écrit La revanche des moches, Les superbes, qui étaient des portraits de femmes et leur rapport avec le succès. Mm-hmm. T'as beaucoup réfléchi à la place des femmes dans la société. Écoute, il y a plein de sujets dans l'actualité, à chaque jour, à chaque semaine, qui nous mettent d'en face la place des femmes dans la société. Et là, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de toute la controverse sur l'habillement de Catherine Dorion?
Bien, je trouve ça un peu dommage qu'on porte autant d'intérêt à ce geste de provocation. Il me semble qu'il y a des débats de société beaucoup plus importants. Par contre, c'est sûr qu'en faisant ce geste-là, bien, elle devait s'attendre à ce qu'on réagisse, Catherine Dorion. Si on revient à l'intention de base, là, qui est de dire, ben moi, le power suit me convient pas. Le tailleur sérieux ne me convient pas. Je me sens déguisée quand je vais à l'Assemblée nationale. Bon, le message a été efficace, on l'a tous compris. Ce qui me fascine, c'est les réactions face à Catherine Dorion. Des réactions qui sont publiques et qui peuvent tomber parfois, je trouve, dans l'injure haineuse. Denise Bombardier, qui n'a pas nécessairement donné dans l'injure haineuse, a quand même dit quelque chose d'assez intense dans sa chronique du Journal de Montréal. Elle compare Catherine Dorion à une fille de joie avec des colliers de perles et talons aiguilles, puis elle sous-tend que ça extrait les mâles. Et moi, ça me crée un certain malaise parce que je me dis, bon, je comprends qu'on trouve que Catherine Dorion peut-être joue dans la provocation et on peut remettre en question son geste. Moi, ça me dérange pas. C'est juste l'élément de sexualisation. C'est un exemple concret, ce que fait Denise Bombardier, de slut-shaming.
Slut-shaming qui est, on va traduire ça de la façon suivante, là. Humilier une femme pour plein de raisons. La traiter de traînée.
À cause de sa sexualité. Puis je me disais, tiens, je me serais attendue à un peu plus de réflexion critique. Et je trouve que dans l'actualité, ces jours-ci, il y a beaucoup cet élément-là de sexualisation des femmes pour les faire taire. Pense à Anastasia Marcelin, la femme noire d'origine haïtienne, là, qui a comme un peu critiqué le projet.
Qui est une citoyenne, là, qui n'est pas une commentatrice, et sous sa publication Facebook, ça s'est déchaîné.
Oui, en fait,
on a attaqué le fait qu'elle soit noire. C'est épouvantable, ça se répète pas à la radio.
En fait, je peux même pas dire les mots parce que ce sont des mots qui sont extrêmement sauvages, violents. Mais bon, encore une fois, on la sexualisait, mais là, il y avait une couche de plus parce qu'elle est noire, donc il y avait un élément de racisme. Puis, tu sais, Amnesty International nous disait dans un rapport très sérieux en 2017, d'après une analyse de milliers de tweets, que les femmes noires avaient encore plus tendance à se faire,
attaquer,
violenter sur les réseaux sociaux. Mais que ce soit Anastasia Marcelin, que ce soit Catherine Dorion, que ce soit n'importe qui, en fait, il y a une tendance chez les femmes publiques, c'est de les sexualiser pour les faire taire. Parce que oui, le web, c'est toxique pour tout le monde, mais il y a une tendance quand même. Valérie Plante en parlait récemment par rapport à son bilan de mi-mandat. Elle disait, oui, il y a un double standard.
Elle a dû se promener avec des policiers.
Exactement. Donc, je me dis, OK, il y a encore quelque chose qui dérange. Puis
Catherine McKenna, la ministre de l'Environnement dans la dernière campagne électorale, un peu avant, elle a été verbalement agressée en public à Ottawa. Mais c'est vrai que c'est pas juste une vue de l'esprit de dire que c'est plus dur pour les femmes dans la vie publique. Moi, je me fais jamais attaquer en me faisant dire « t'aurais besoin de te faire... » Mais les femmes, c'est constant.
Puis cette haine-là, elle est très visible, puis elle, plus on la voit, la haine, plus elle est autorisée, puis plus elle se diffuse. C'est un peu ça, tu sais, finalement, la propagation des discours haineux. Puis moi, c'est ce qui me semble assez particulier. Gunther Anders parlait de la haine comme étant un jeu entre le chat et la souris. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Tu sais, on s'insulte d'une part et d'autre et je trouve que ça s'envenime. Et à lire les commentaires sous la publication d'Anastasia Marcelin ou de Catherine Dorion, ou peu importe, même des attaques qui sont faites sur la sexualité de Sophie Durocher, peu importe si c'est une femme de gauche, de droite, on s'en fout. La sexualisation de ces femmes-là n'a pas à être tenue dans l'espace public. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on s'attaque aux femmes. Donc, pour ceux et celles qui banalisent un peu ça en disant « ben non, mais les cyberviolences, c'est pas important », je conçois que le web, c'est violent pour tout le monde, mais ce l'est particulièrement pour les femmes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits.
Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'on ait cette rage-là ultime envers une femme et qu'on le fera pas pour un homme où on va s'attaquer peut-être plus à sa capacité intellectuelle?
Ben, peut-être que dans l'histoire, c'est encore récent que les femmes occupent une telle place dans l'espace public. Puis, tu sais, on dit récent. 50 ans, c'est récent dans l'histoire des sociétés. Donc, il n'y a pas longtemps, là, c'était « get back to the kitchen, les filles ». Puis encore aujourd'hui, avec le web, là, je trouve qu'il y a comme une espèce de libération de la parole misogyne. On l'a vu récemment avec le documentaire sur la manosphère. Il y a beaucoup de groupes haineux qui ont tendance à, je dirais, inférioriser les femmes. Et il y a de plus en plus une tendance qu'on appelle le « male supremacy », qui est une espèce de suprémacisme blanc, mais particulièrement masculiniste. Qui vraiment est popularisé par certains sites, certains forums. Et c'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, quand on regarde Donald Trump qui a des propos vertement misogynes, c'est pas étonnant.
Toi, Léa, Léa Clermont-Dion, t'es une femme publique. Tu prends la parole, t'écris des livres. Tu vas commenter des sujets qui, des fois, sont polarisants.
Aujourd'hui.
comme aujourd'hui, quand tu ouvres ta messagerie, c'est quoi la fréquence des messages violents que tu reçois?
Bien, franchement, là, moi, j'ai quitté Twitter. Parce que j'en avais marre de recevoir des propos violents. Puis je sais que c'est pas la solution, puis qu'il faut pas nécessairement quitter les réseaux sociaux. Il faut que les réseaux sociaux nous protègent si on décide de signaler des comptes haineux. Alors, honnêtement, sur Twitter, je sais plus ce que c'est parce que j'ai quitté, j'en avais marre. Après, sur Facebook, je m'arrange pour pas trop publier de trucs, malheureusement. Donc, effectivement, il y a un effet d'exclusion d'espace public.
Tu t'empêches de
le faire. Oui, tu t'es muselé, oui, c'est ça.
Ben malheureusement, c'est ça qui arrive parce que j'étais un peu tannée, sincèrement. Donc, moi, je me restreins à Instagram parce que c'est mon safe space. Mais si le moindrement que j'exprime une opinion sur Facebook, je suis un peu tannée qu'on s'attaque au fait que je sois féministe. Je veux dire, il y a d'autres particularités. Puis c'est pas parce que je suis féministe que j'haïs les hommes. Et je trouve ça un peu tannant. Alors oui, il y a un effet d'exclusion. Puis c'est plate à dire, mais moi, j'ai pas envie d'être masochiste. Alors je prends la parole là où je me sens respectée. Puis de recevoir à un moment donné des tonnes et des tonnes de commentaires haineux. Je veux dire, on l'a vu, Martine Delvaux, tout le monde en parle. Le nombre de personnes qui l'ont attaqué, je veux dire, si tu lis son livre, il y a rien de très radical là-dedans. Là. Sincèrement, si on s'en tient au propos du livre...
On est avec Léa Clermont-Dion. Ça a fini un peu raide, ouais. Mais ce n'est pas terminé. On s'en va une pause, Léa.
C'est bon, beau moment de radio.
Je suis de bonne humeur, tout le monde, alors voilà.
On te retrouve après la pause. Il est 18h, presque 16.
Merci.
Dans une campagne à la présidence. De retour en studio avec Catherine Beauchamp et Léa Clermont-Dion. Léa, avant de partir à la pause, tu disais, j'ai quitté Twitter, je ne commande plus sur des sujets polarisants. Et sur Facebook, je limite ça au minimum parce que je ne veux pas me faire attaquer. C'est lassant. Ça fait, tu te dis, je ne suis pas masochiste.
Mais je ne veux pas me victimiser là-dedans. Par contre, c'est vraiment un choix que moi, personnellement, je n'endosse pas cette plateforme qui est Twitter. Je veux dire, j'ai déjà signalé des comptes qui m'apparaissaient haineux. Et malheureusement, il n'y a rien qui a été fait. Donc, je n'avais pas envie d'être sur cette plateforme-là.
Sur Facebook, tu t'auto-censures dans le fond.
Je veux juste nuancer aussi le fait que lorsqu'il est question, par exemple, de mes activités, mes participations culturelles, je veux dire, un livre comme Crève avec moi, par exemple, mon émission Mitsu et Léa, j'ai jamais de haine explicite. T'sais, je sens pas qu'on s'en prend à ma personne, vraiment. C'est plutôt quand j'aborde des questions de mon côté féministe, là, c'est comme des cordes sensibles, c'est polarisant. Alors, c'est sûr que des fois, je m'adonne à me dire, bon, ben, je me permets une petite publication, mais il faut que je sois, tu sais, comme... assurée d'être présente puis d'être sur un bon mood parce que c'est sûr qu'après ça, ben là, je vais me faire traiter sincèrement de poufias, de toutes sortes de mots, de je vis du slut shaming, etc. Et c'est inévitable, mais je le prends pas personnel.
Léa, tu travailles sur un documentaire qui s'appelle Backlash qui va être diffusé et à Radio-Canada, mais aussi en salle.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter de différent?
Je pense qu'on a beaucoup parlé, en fait, de cette thématique-là, mais on a peu montré l'effet sur les victimes de cyberviolence. Et donc, on va faire une espèce de tour d'horizon international avec une Marion Séclin, qui est une YouTubeuse française qui a reçu 40 000 messages haineux. On va aller en Italie avec Laura Boldrini, une ex-présidente du Parlement italien qui, elle, a vraiment été, attaquée par la droite populiste italienne de Matteo Salvini, de Pepe Grillo. On va aller aux États-Unis aussi avec Kia Morris, qui est une ancienne représentante démocrate. Donc, on va faire plus un état des faits, puis on va suivre ces protagonistes-là dans leur cheminement. Parce que je trouve qu'on déshumanise beaucoup ce sujet-là. On en parle, mais qu'est-ce que c'est de le vivre de l'intérieur? Moi, j'ai beaucoup d'empathie envers ces femmes-là, puis j'ai envie qu'on les entende nous partager partager leur vécu dans un film qui est, je dirais, vraiment une qui amène de l'intimité.
Penelope McQuaid a fait un truc semblable pour Télé-Québec il y a quelques années. Elle avait fait... Elle a rencontré des trolls. Et ce qui me fascinait, c'est que les gens témoignaient à visage découvert. Et dans le cas de Facebook, moi, là, j'ai toujours pensé à l'époque des blogs. Les gens commentaient sur les blogs, disaient des affaires épouvantables. Je me disais, si ces gens-là évoluaient à visage découvert avec leur nom, ils ne diraient jamais ça. Facebook a prouvé que oui, les gens disent des affaires épouvantables, ne sont même pas gênés avec leur nom, leur face, le nom de leurs amis, leur photo de vacances à Punta Cana. Pas grave, on dit des affaires épouvantables sur les races, sur les femmes, sur tout le monde.
Mais on a beaucoup parlé de l'anonymat pendant des années, mais aujourd'hui, c'est vrai que les recherches le démontrent, on le fait à visage découvert. La haine a un visage.
Merci Léa Clermont-Dion.
C'est super intéressant.
Merci.
Très intéressant. Merci. Je pense qu'il faut en parler pour que ça change un peu. Merci Catherine Beauchamp.
Un plaisir.
Très bonne émission encore une fois. Merci d'avoir été là tout le monde. Et je vous laisse à la retransmission du match canadien Flyers avec nos amis Martin McGuire et Danny Dubé. Ici Patrick Lagacé. C'était l'édition du jeudi 7 novembre du Québec maintenant. On se retrouve demain 15h.